m'appelle Thomas Belay, donc j'ai 27 ans. Juste en deux mots, j'habite à Paris, je travaille dans une boutique d'artisanat monastique. Et puis je poursuis aussi des études en théologie au Collège des Bernardins. Et puis voilà, donc quand j'ai un peu de temps, j'écris aussi des bouquins. Donc il y en a eu un sur l'évangélisation, surtout l'évangélisation de rue, puis celui-ci sur l'unité des chrétiens, dont je vais un petit peu parler, enfin dont je vais un petit peu m'inspirer pour le topo de ce soir. Et puis voilà, un dernier qui est paru aussi récemment, le mois dernier.
Pour moi, ne s'opposait pas du tout. L'existence des autres confessions chrétiennes, bon, je savais qu'il y avait des orthodoxes, des protestants, mais pour moi, c'était très lointain. Ce qui est un peu un paradoxe parce que le renouveau charismatique, en fait, doit énormément de choses au pentecôtisme, donc il y a un mouvement au sein du protestantisme. Et donc voilà, en tout cas, moi, c'était très abstrait. Donc je savais qu'il y avait des orthodoxes qui existaient, mais pour moi, c'était très abstrait. Pour moi, c'était juste des sortes voilà, de mecs barbus en Russie qui priaient avec de l'encens, avec plein d'icônes autour d'eux, qui chantaient avec une voix grave. Pour moi, c'était des trucs comme ça. Pour moi, les protestants, c'était des Américains aux États-Unis qui prêchaient très fort avec une Bible en main. Voilà. Ou alors, ça pouvait être des images qu'on a parfois dans les médias de sectes, parfois dans certains pays d'Afrique, avec des personnes voilà, qui se roulent par terre. Donc, en fait, j'avais des images un peu médiatiques comme ça. Mais la question des autres confessions chrétiennes, c'était très abstrait. C'est très abstrait. Et ce qui est devenu concret à un moment donné dans ma vie à l'âge de 20 ans, en fait, c'est tout simplement qu'une de mes sœurs s'est fiancée avec un protestant, alors qu'elle faisait ce qu'on appelle un Erasmus en Angleterre. Donc, elle faisait une année d'études en Angleterre. Et puis, donc, elle s'est fiancée avec un protestant. Et dans le même temps, en fait, elle a commencé à faire un cheminement de foi dans une église protestante évangélique. Et donc, moi, je me souviens qu'elle, voilà, cette année-là, donc, pendant les vacances de Noël, elle est revenue. Du coup, à la maison où on habitait, et puis elle m'a raconté un peu tout ça. Et moi, c'était à une période où petit à petit, la foi devenait importante dans ma vie, et puis très naturellement, la foi dans l'Église catholique. Et donc, je comprenais pas trop la démarche dans laquelle elle était, où je voyais qu'elle vivait de très belles choses spirituellement, en fait, dans ce qu'elle me racontait. Je sentais qu'elle avait une nouvelle ferveur, et en même temps, je voyais qu'elle s'écartait de l'Église catholique. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était très difficile à concilier dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais mener mon enquête. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter. Et donc, je me suis posé la question, c'est quoi un protestant évangélique en fait? Et donc, j'ai commencé d'abord à me renseigner en fait, un peu comme font beaucoup de jeunes de mon âge, donc sur Internet. Donc, d'abord sur les différences théologiques, les différences de doctrine, en quoi croit un protestant évangélique, en quoi est-ce que c'est différent d'un catholique. Ça m'a beaucoup interpellé. Voilà, en regardant aussi des reportages, des émissions, et puis en m'intéressant un petit peu très rapidement à la théologie. Et je me suis dit, il faut maintenant que j'aille voir sur place. Il faut que j'aille voir dans un culte protestant évangélique qu'est-ce que vivent les protestants, pour voir qu'est-ce qui a pu attirer ma sœur. Ce qui a été très très beau pour moi, c'est que j'ai été vraiment très touché par ce que j'y ai vu. Donc à ce moment-là, j'étais étudiant. En droit à Lille, et puis j'ai mis les pieds dans deux églises évangéliques baptistes, et puis en fait j'ai été très très touché par l'accueil, par la joie, par la ferveur, par les prédications, voilà, où j'ai trouvé que c'était des prédications souvent très longues mais très belles, qui sont à la fois très ancrées sur la Bible et en même temps très concrètes. Voilà, par la louange, par les témoignages aussi des personnes que j'ai rencontrées, la gratitude envers Dieu, la conscience que les personnes que je rencontrais avaient d'être sauvées, en fait. Donc il y avait beaucoup de choses, alors que moi je pense que j'étais dans une certaine quête de radicalité, de ferveur dans la foi, qui se sont mis à me percuter. Et puis en fait, Dieu s'est servi de tout ça pour venir me toucher encore plus profondément. Et donc, j'ai vécu une vraie rencontre très profonde avec le Christ dans cette église. Et c'est là, en fait, où finalement, tout ce que je savais dans ma tête de la foi chrétienne, toutes ces choses que j'avais reçues et qui étaient très belles, qui ont été semées par mes parents, par la communauté que j'ai côtoyée, en fait, se sont mis à descendre vraiment au cœur. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment choisi d'être radicalement disciple de Jésus, en fait, que j'ai pris conscience de son amour pour moi, j'ai pris conscience que Jésus-Christ était vraiment mort pour moi. Et donc, en fait, je me suis mis, sans trop rentrer dans les détails, mais je me suis impliqué dans cette église, j'y ai redécouvert beaucoup de choses. Comme je disais, la louange, la Bible, je me suis mis à la dévorer, donc depuis, j'ai pas arrêté. Puis voilà, je me suis mis à m'impliquer dans un groupe d'évangélisation de rue. Donc, beaucoup de choses qui se sont aussi des déclics, voilà, des déclics très très forts que j'ai eus. Et donc, les choses ont fait que je suis revenu dans l'église catholique. Donc, sans trop rentrer dans les détails, si après vous avez des questions là-dessus, ben, on pourra en parler. Mais en tout cas, voilà, en fait, pour moi, le fait de découvrir les évangéliques, ça a été une porte d'entrée sur cette question de l'unité des chrétiens, de prendre conscience, en fait, au fond, qu'on pouvait rencontrer le Christ dans une autre église chrétienne que la mienne, et de me rendre compte, en fait, que l'Esprit Saint, ça peut paraître un peu bête. Voilà, si vous-même vous avez peut-être eu cette expérience-là depuis longtemps, mais pour moi, c'était assez nouveau de me rendre compte que l'Esprit Saint agissait véritablement chez des chrétiens d'autres confessions. Et donc, à travers ça, je me suis mis à découvrir aussi d'autres confessions chrétiennes, tout en revenant à l'Église catholique. Voilà, j'expliquais ça au groupe alors qu'on mangeait là ce soir, mais il y avait un temps où j'étais étudiant à Lille, et puis où j'allais à la messe le soir, le dimanche, et puis où tous les dimanches matin, ben, on allait découvrir une nouvelle confession chrétienne. Donc voilà, à la fois je suis très catholique, je ne vais pas vous mentir, au sens où j'ai tout rechoisi dans l'Église catholique, de A à Z, au niveau de la doctrine, de la spiritualité, de beaucoup de choses, mais en même temps j'ai conscience de tout ce que je dois, en particulier aux protestants évangéliques, mais aussi à d'autres confessions chrétiennes. Et donc c'est quelque chose qui m'a marqué, et puis qui m'a poursuivi du coup ces dernières années, où j'ai eu l'occasion de faire aussi une année de colocation œcuménique, donc de vivre une année dans un projet qui existe surtout à Paris, mais peut-être dans d'autres villes, qui s'appelle la Maison d'Unité. Voilà, puis j'ai eu aussi pas mal d'autres expériences, et puis aujourd'hui je vis aussi pas mal de choses à travers les réseaux charismatiques, donc que ce soit catholique ou évangélique, à travers pas mal d'associations, de structures, de groupes de prière. Donc voilà, je vous en dirai plus, mais en tout cas, tout en restant catholique, bah, l'unité des chrétiens continue à avoir beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui. Alors vous allez me dire, bon, bah, ça c'est très beau, c'est ce que j'ai vécu subjectivement, mais concrètement, ce qu'on peut peut-être se demander, c'est pourquoi est-ce que l'unité peut être importante pour l'Église en général? C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser au-delà des itinéraires individuels. Parce qu'au fond, moi, je me suis rendu compte, d'une certaine manière, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, je trouve qu'il y a trois grandes catégories de chrétiens dans leur rapport à la question de l'unité, en fait. Il y a un peu, je dirais, une sorte de petite minorité de gens qui sont motivés, qui sont convaincus, pour qui l'unité est quelque chose d'important, et qui s'y engagent d'une manière ou d'une autre, donc dans les différentes confessions chrétiennes. Ensuite, je dirais qu'il y a une deuxième minorité de personnes qui sont très très opposées viscéralement, pour des tas de raisons. Donc pareil, on peut y retrouver pêle-mêle des catholiques traditionnalistes, certains orthodoxes, certains évangéliques fondamentalistes. Et puis, c'est un peu mon interprétation, mais il y a, je dirais, une sorte de majorité de chrétiens qui, globalement, ne sont pas forcément nécessairement opposés à ce qu'il y ait des contacts avec d'autres confessions chrétiennes, mais qui, globalement, s'en foutent un peu. C'est-à-dire que la question n'est pas forcément importante, c'est pas essentiel, et ça a aucun impact concret dans leur vie. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est que les personnes qui sont motivées et qui sont convaincues de la question de l'unité des chrétiens deviennent des missionnaires de l'unité des chrétiens dans leur propre confession. Et donc, on partage les trésors qu'on découvre dans ce contact avec les autres confessions chrétiennes. Et donc, au fond, pour moi, l'unité des chrétiens est importante pour l'Église aujourd'hui. Alors, une première raison qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est tout simplement un constat sociologique. Pour moi, l'unité, c'est une question d'actualité, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus je dirais, de diversité religieuse dans les pays occidentaux de chrétienté, ou peut-être dans beaucoup de pays. Pendant longtemps, chaque pays était structuré par une confession chrétienne particulière, et puis en général, il y avait une toute petite minorité religieuse. Et en fait, les choses font qu'avec la mondialisation, l'immigration, des tas de choses, mais en fait, on voit qu'il y a une diversification des populations, des confessions chrétiennes. Et en fait, au fond, les choses ne se posent pas de la même manière quand on est juste une confession ultra majoritaire dans un pays avec une toute, toute, toute petite minorité. Et quand on voit qu'en fait, il y a une sécularisation et un athéisme qui gagnent partout l'Occident, et qu'en fait, on se retrouve à être juste des petits blocs, des petites minorités chrétiennes. Donc la question ne se pose pas de la même manière. Et c'est dans ce sens-là où, comme je vous disais, moi, j'ai vécu une année de colocation œcuménique. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, en Occident, et particulièrement en France, c'est comme si on vivait dans une grande colocation dans une grande maison commune, dans lesquelles finalement la question, ça va être quelle attitude on va adopter vis-à-vis des autres confessions chrétiennes qui sont sur notre sol. Est-ce qu'on reste chacun dans notre chambre? Est-ce que chacun fait sa sauce de son côté? Est-ce qu'on décide d'être dans une sorte de confrontation, de concurrence? Ou est-ce qu'on décide que ça peut être une opportunité, une occasion de faire des choses ensemble? Donc ça, c'est la première chose qui est peut-être voilà, un peu triviale. C'est finalement la motivation qui est la moins, je dirais, importante par ordre de grandeur, mais finalement qui montre que c'est une question qui est d'actualité en fait. Aujourd'hui, c'est pas juste des spéculations. On fait pas juste ça, l'unité des chrétiens, parce que c'est un truc en plus dans notre vie chrétienne, parce qu'on a du temps pour ça. Mais c'est parce que je pense que ça va être de plus en plus un enjeu pour l'Église dans ces prochaines années, dans ces prochaines décennies. Très concrètement, en France, y a une baisse du catholicisme. Il y a une baisse d'une partie, en tout cas, du protestantisme luthéro-réformé, pas partout. Et puis, il y a une croissance de l'orthodoxie en partie, en tout cas avec une immigration venue d'Europe de l'Est. Et puis en même temps, un développement exponentiel des églises protestantes évangéliques. Et donc, en fait, de plus en plus, on va être confronté dans notre quotidien à des chrétiens d'autres confessions. Ça ne va pas juste être un truc, la question de l'unité, un truc de personnes qui sont motivées, qui sont déjà convaincues, qui font ça parce que c'est un hobby. Mais en fait, ça va être une question qui va être au cœur de l'église. Et un peu comme dans certains pays, le Brésil, on voit que c'est une question qui est brûlante, en fait. Même si c'est un pays qui est encore très chrétien, en fait, on voit qu'il y a une montée très forte du protestantisme évangélique, et les choses se passent pas toujours très bien. La cohabitation dans cette grande colocation se passe pas très bien, et en fait, il y a un mécanisme un peu de concurrence religieuse, de concurrence missionnaire, et qui est en fait un contre-témoignage, finalement, pour l'annonce de l'évangile. Et donc, finalement, ça rejoint un petit peu cette autre raison pour laquelle l'unité des chrétiens est aussi importante, c'est pour l'évangélisation, pour la mission. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que dans des pays qui se déchristianisent, avec une grande sécularisation, en fait, de plus en plus, on se rend compte aussi de ce qu'on a en commun. C'est-à-dire, on a des divisions qui sont réelles, qui sont très très fortes. Il ne s'agit pas du tout de les nier, mais en fait, on se dit face à une société qui s'éloigne du christianisme. En fait, on se rend compte aussi de ce qu'on a en commun. Et donc, il y a un pasteur baptiste américain qui s'appelle Rick Warren qui dit, au fond, on se rend compte à travers finalement la baisse du christianisme, mais que ceux qui aiment Jésus sont dans la même équipe, d'une certaine manière. On se retrouve à être placé dans une situation où on voit aussi tout ce qu'on a en commun. Et finalement, au-delà de ça, du constat actuel, ça rejoint en fait plus profondément le souhait de Jésus, finalement, qui lui-même fait le lien entre la question de l'unité des chrétiens et la question de l'évangélisation, en fait. Donc dans un texte qui est assez connu, hein, qui est beaucoup cité pour toutes les rencontres sur l'unité des chrétiens, mais dans Jean 17, donc voilà Jésus qui dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. » Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc en fait, on voit qu'il y a un lien qui est hyper fort entre l'évangélisation, la mission des chrétiens dans le monde, et puis cette question de l'unité, où au fond, c'est pas compliqué d'imaginer que dans un pays dans lequel les confessions chrétiennes se tapent dessus, en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour, pour un athée, pour quelqu'un qui se pose des questions, d'accueillir le témoignage de l'évangile, en fait. Et en fait, on voit que dans l'histoire de l'œcuménisme, en fait, notamment au XIXe siècle, l'œcuménisme, il a beaucoup commencé entre les confessions chrétiennes protestantes, où ils se sont rendus compte finalement que, alors qu'ils allaient évangéliser partout dans le monde, mais évangélisant chacun au nom de leur église, il y avait beaucoup de divergences théologiques dans la manière d'annoncer, et puis ils se sont dit, mais en fait, c'est un peu un contre-témoignage vis-à-vis des personnes auprès de qui on annonce l'évangile, de nous-mêmes nous taper dessus, quoi. Donc finalement, il y a cette question-là qui est très pressante aujourd'hui de se dire, voilà, les gens aujourd'hui s'écartent de Dieu, les gens vivent et meurent sans Dieu. Est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas le temps qu'on laisse nos querelles de côté et puis qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut ensemble? Et donc au fond, au-delà des motifs, on va dire, d'actualité qui sont pressants aujourd'hui, l'unité des chrétiens, sa raison d'être. C'est d'abord le cœur de Dieu, c'est d'abord ça en fait. Le risque, c'est d'aller trop facilement justement de faire uniquement le lien entre l'unité des chrétiens et l'évangélisation, et de se dire on va uniquement faire de l'œcuménisme par pragmatisme, en se disant voilà, aujourd'hui, comme je le disais, hein, c'est les deux raisons précédentes, il y a de multiples confessions chrétiennes en France, d'autre part on voit que la France se sécularise, du coup il faut bien qu'on fasse des trucs ensemble. Et donc là, si on s'arrête là, on passe à côté du cœur de l'unité, qui est que c'est un projet central dans le cœur de Dieu, en fait. Et justement, en fait, le texte que j'ai cité, il nous montre que l'unité des chrétiens, elle prend sa source dans le cœur de Jésus. Le texte que je vous ai cité, c'est le testament de Jésus, c'est-à-dire que c'est au moment du jeudi saint. Donc, dans les dernières recommandations qu'il donne à ses disciples, il y a ce cri pour l'unité que donne Jésus. Et puis, en fait, où il nous fait aussi le lien en disant, de même que le Père et moi sommes un, soyez un vous aussi. Donc, il y a quelque chose, en fait, d'une profondeur qui est inimaginable dans l'unité que Jésus attend de nous, en fait. C'est pas juste une unité de on arrête d'avoir des conflits, on arrête de se taper dessus, en fait. L'unité que Dieu attend de ses disciples, elle est à l'image de l'unité, de la communion dans la Trinité. Donc c'est quelque chose qui est, je trouve, qui donne le tournis. Ça peut paraître très abstrait, mais c'est de se dire, voilà, l'amour, la communion que le Père partage avec le Fils dans l'Esprit Saint, en fait, Dieu, il a un désir brûlant que les chrétiens vivent d'une même communion entre eux. Donc en fait, avant tous les raisonnements pragmatiques de dans l'unité des chrétiens, on fait ceci, on fait cela, on met des trucs en place, il faut toujours revenir à cette idée que l'unité, c'est un projet de Dieu qui part, qui sort du cœur de Dieu. C'est comme un cri de Dieu qu'on entend dans toute la Bible, dans toute l'histoire du christianisme, de Dieu qui veut rassembler dans l'unité ses enfants dispersés. Donc on le voit déjà dans toute l'histoire d'Israël, sans rentrer dans les détails, j'en parle un petit peu dans le bouquin, mais voilà, les 12 tribus qui aujourd'hui sont séparées, on pourrait se dire, Dieu veut les rassembler. Et en fait, donc, du coup, l'unité, je pense que c'est essentiel de revenir à ce motif profond et le vivre et l'expérimenter dans nos tripes, de le revivre, à quel point en fait c'est quelque chose qui prend sa source vraiment dans le cœur de Dieu. C'est un désir profond pour Dieu, que nous soyons un. Et du coup, en fait, à partir de ça, on comprend que le cœur de l'unité, c'est de redécouvrir une sorte de fraternité qu'on a en commun. Parce qu'on croit tous en Jésus, de manière différente, avec une théologie différente, une pratique différente, mais parce qu'on croit tous en Jésus, qu'on est tous enfants d'un même Père, en fait, on est frères. On est frères de Jésus et on est frères véritablement. Et donc, en fait, l'unité des chrétiens, encore une fois, au-delà de tous les motifs pragmatiques de on va faire ceci, on va faire cela, c'est d'abord une fraternité. C'est d'abord, on est membre d'une même famille. Et en fait, il n'y a rien qui est possible dans l'unité. Tout ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. C'est du bavardage et c'est de l'activisme, tant qu'en fait, on ne se comporte pas les uns avec les autres comme étant des frères et sœurs. Quand on n'a pas pris conscience que, pour moi qui suis catholique, le protestant, l'orthodoxe, c'est pas juste un hérétique, c'est pas juste un mec qui a des convictions différentes que moi, mais c'est aussi un frère. C'est un frère avec qui j'ai une relation qui est blessée, avec qui voilà, il y a toutes sortes de difficultés historiques qui sont apparues, mais ça reste un frère, ça reste un membre de ma famille. Et donc, à la lumière de ce cœur de Dieu, on comprend qu'on est véritablement frère et que Dieu, en fait, il veut réconcilier sa famille. C'est ça que veut Dieu, en fait. Il nous voit, nous, catholiques, protestants, orthodoxes, et il veut réconcilier sa famille. Et donc, l'unité, en fait, la base, je pense. Avant d'aller sur des questions un peu plus concrètes, hein, c'est pour ça que je prends le temps de reparler de ça, c'est il y a vraiment une fraternité commune à redécouvrir, qui est essentielle. Si vraiment on a le même père, c'est qu'on est frères et sœurs. Et donc à partir de ça, il y a aussi quelque chose qui, je pense, qui doit être important à être expérimenté dans nos tripes, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la division. Alors c'est quelque chose qui n'est pas masochiste, mais je pense qu'il est essentiel à comprendre pour pouvoir avoir une vision saine de l'unité des chrétiens, mais c'est justement prendre conscience vraiment dans notre chair de cette souffrance du Christ de voir ses enfants qui sont divisés. Et je pense que sinon, encore une fois, on vit un truc qui va être très superficiel. On va avoir des motifs de s'impliquer dans l'unité des chrétiens qui seront peut-être beaux, mais qui vont rester à la surface. Or, je pense encore une fois que l'unité, ça découle de cet amour qui déborde du cœur de Dieu, qui coule sur nous et par lequel Dieu veut qu'on vive de cette charité, de cet amour abondant pour tous les chrétiens, y compris les chrétiens d'autres confessions. Et donc il y a un abbé catholique qui s'appelle l'abbé Paul Couturier, qui avait cette prière en disant, fait-nous ressentir la souffrance de nos divisions. Alors, peut-être que je peux me décaler un peu, non? Je sais pas si. Je me mets un peu en retrait, peut-être? Donc encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout masochiste. En fait, on ne recherche pas la souffrance, on ne recherche pas à uniquement pleurer ou je sais pas quoi. Mais c'est de se dire, en fait, c'est prendre conscience qu'on est divisé. Ça peut paraître très basique, mais en fait, il n'y a aucune implication dans l'unité des chrétiens qui est possible si on n'a pas conscience dans notre trip qu'on est vraiment divisé. Et que ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas quelque chose auquel on doit s'habituer en disant, bah, ça a toujours été comme ça. C'est une anomalie dans ce que Dieu souhaite pour son Église. Et donc c'est quelque chose qui doit nous remuer dans notre chair, en fait, qu'on doit expérimenter en sentant dans nos tripes l'amour que Dieu a pour nous et le désir qu'il a que ce désir de réconciliation au fond. Parce que c'est uniquement quand on a pris conscience de notre maladie, on va dire, qu'on va pouvoir y remédier finalement. C'est quand on a plus de déni sur notre maladie qu'on va appeler le médecin pour essayer de trouver une solution. Mais si on n'a pas pris conscience qu'on est vraiment divisé, on va nulle part, quoi. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est quelle unité? J'essaie d'avancer peut-être un peu plus vite, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Quelle unité? Et là, c'est une question qui est assez compliquée, parce que, très concrètement, on va pas avoir la même vision de l'unité des chrétiens. On aura une vision de l'unité des chrétiens différente, entre confessions chrétiennes différentes, tout simplement parce qu'on a une vision de l'Église qui n'est pas exactement similaire. Et donc chacun va essayer d'évaluer ce que devrait être l'unité des chrétiens en fonction de sa propre théologie sur ce que doit être l'Église, en fait. Et donc c'est vrai que c'est une difficulté. Mais en même temps, je pense que d'une certaine manière, c'est finalement pas si dramatique que ça, parce qu'on peut se dire l'unité, c'est un chemin qu'on est appelé à emprunter, sans trop savoir jusqu'où ça va nous mener. On sait que c'est un sentier qu'on doit emprunter parce que Dieu nous le demande. Mais moi, je le vois un peu comme un chemin dans lequel, un peu que Dieu demande à Abraham, ben voilà. Tu iras dans ce pays-là, et Abraham partit sans savoir où il allait. Abraham partit sans savoir où il allait, et pour moi, l'unité des chrétiens est quelque chose un peu comme ça, en fait. De se dire, bah, on ne met pas le curseur au même endroit sur est-ce qu'il faut qu'on aille vers une unité visible au sens de l'Église catholique. Alors, moi, je suis catholique, je ne vais pas vous mentir, donc j'ai tendance à avoir une conception de l'unité qui va être marquée par la vision catholique, mais de l'autre côté, le protestant avec qui je vais discuter, il va avoir une vision qui va être plus de l'ordre de la communion spirituelle, d'une fidélité à la Bible, etc. Mais donc, on ne mettra pas le curseur au même endroit. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'on peut tous, en tout cas, se mettre d'accord sur ce constat qu'on n'est pas tous autant unis que ce que Dieu voudrait. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, en fait, quand on lit certains versets bibliques, certaines phrases, certaines paroles de Jésus, en fait, on comprend bien que on en a ce sentiment, en fait, que l'unité, on n'est pas autant unis que ce que Dieu souhaiterait. Et donc on peut se dire que l'unité, c'est un chemin qu'on est amené à emprunter, tout en sachant très bien qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on sera amené à s'arrêter, en fait. Et finalement, l'unité sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est l'unité telle que Dieu la veut. Là aussi, c'est une prière qu'on récite souvent, mais voilà, dans certains milieux œcuméniques, c'est de demander à Dieu de nous conduire vers l'unité telle que Dieu la veut et par les moyens qu'il veut. Donc c'est pas une sorte de spiritualisme abstrait dans lequel on ne fait plus rien, mais c'est de se dire encore une fois que l'unité, c'est le projet de Dieu dans lequel il nous associe. Et dans lequel on a des choses à faire, on a des choses à accomplir, mais c'est d'abord le projet de Dieu. Et donc l'unité qu'on vise, à la fois on peut tous être fidèles à notre propre théologie, à notre propre conviction, mais en se disant, toujours en remettant nos convictions théologiques dans le plan plus large, on pourrait dire, de Dieu. En laissant de l'espace, on va dire, pour que Dieu puisse nous conduire, y compris par des chemins qu'on ignore. Donc en gardant toujours en tête l'unité telle que Dieu la veut, par les moyens qu'il veut. Alors après, dans mon livre, j'évoque aussi très rapidement, je vais pas rentrer trop dans les détails, ça vous intéresse. En fait, je développe aussi quelles sont les fausses conceptions de l'unité qu'on peut avoir. Donc dans le livre, j'en évoque sept, là je vais en parler de deux très rapidement, pour se dire, en fait, il y a aussi des fausses visions de l'unité qui peuvent nous conduire sur des routes qui sont pas géniales. Alors, il y a une des fausses conceptions de l'unité que j'appelle l'unité sélective. Alors, si j'en parle à chaque fois, c'est parce que moi, je les ai toutes expérimentées pour moi. Donc, je suis passé par toutes ces conceptions de l'unité. Alors, l'unité sélective, c'est la tentation de se dire, je suis engagé dans l'unité des chrétiens, mais je vais être uni uniquement avec les gens qui me ressemblent, uniquement avec les gens avec qui j'ai un feeling naturel, des affinités de tempérament, des affinités théologiques. Donc, par exemple, le catholique libéral, il va se sentir plus proche peut-être d'un protestant libéral que d'un orthodoxe. À l'inverse, ben, moi je fais mon mea culpa. J'ai une tendance plutôt attachée à l'orthodoxie de la foi, enfin voilà, en ce qui concerne la foi et la morale. Donc, j'ai une tendance un petit peu tradit, pas trop, mais un peu tradit. Et donc parfois, je vais être plus proche de certains orthodoxes ou de certains protestants évangéliques, plus proche que certains protestants libéraux. Mais c'est pas moi de dire, de délimiter les contours de l'unité des chrétiens, et c'est pas moi de mettre certains chrétiens hors du champ de l'unité. Et donc Dieu, il me challenge pour me dire, non, l'unité, c'est avec tout le monde. Les frères et sœurs, c'est des personnes que j'ai pas forcément choisies. Et c'est de se dire, ben, dans cette unité, je vais être avec des gens qui vont me déplaire pour des tas de raisons. C'est des frères et sœurs, je les ai pas choisis. Mais ils vont aussi me challenger. Et sur certains points, ben, moi, je vais découvrir en fait qu'il y a des protestants libéraux qui vont m'apporter énormément de choses dans leur ouverture au monde, dans leur capacité à dialoguer avec les institutions, avec les autres religions, dans une approche parfois plus critique de la Bible. Donc moi, je vais pas être d'accord sur tout avec eux, mais je peux reconnaître qu'ils ont des trésors du Christ qui peuvent être bons pour moi. Donc éviter l'unité sélective, je pense que c'est valable pour chacun de nous. Éviter aussi ce que j'appelle l'unité colonisatrice. Colonisatrice, c'est un peu une sorte d'espionnage industriel. Donc là, c'est des personnes qui sont motivées par l'unité des chrétiens, mais au fond, on va découvrir des autres confessions chrétiennes uniquement pour ce qu'elles vont apporter à notre propre Église. Donc là, il y a un premier pas qui est très positif, c'est déjà au moins on s'intéresse aux autres chrétiens, mais le risque, c'est de se dire on va uniquement y aller pour, je sais pas comment dire, dans une optique de consommation, en se disant il y a des trucs chouettes dans les autres confessions chrétiennes, je peux enrichir mon Église, je peux rendre mon Église plus belle à travers ce que je vais découvrir. Et en fait, on n'aime pas l'autre chrétien pour ce qu'il est. Et on ne recherche pas finalement l'unité avec l'autre chrétien. Donc voilà, c'est des petites. J'en ai d'autres que je développe un petit peu dans le bouquin, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Mais encore une fois, c'est resituer les choses en disant bah, toujours unité telle que Dieu la veut par les moyens qu'il veut. Et peut-être, avant d'aller encore une fois vraiment dans le concret, je vous promets, on va y arriver. Il y a aussi deux principes, je pense, qui peuvent structurer notre approche de l'unité. Le premier, c'est ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Donc, je le disais, bah, l'unité des chrétiens, ça passe par cette découverte que les autres ne sont pas seulement des gens qui sont dans l'erreur, qui sont des hérétiques, qui sont des gens qui ont des convictions qui me choquent, des pratiques que je trouve bizarres. Ce sont des gens qui croient en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui essayent de faire la volonté de Dieu dans leur propre logique, qui est peut-être pas la mienne, mais dans leur propre logique. Et au fond, on est déjà unis par le Christ, d'une certaine manière. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est mort aussi pour notre unité. Et donc déjà aujourd'hui, on vit d'une certaine unité, même si elle n'est pas parfaite. Mais c'est important de se dire que l'unité, c'est un peu comme le royaume de Dieu. À la fois, il est déjà là, et en même temps, il n'est pas encore là. Donc il y a déjà une unité qu'on reçoit du fait qu'on est unis par le Christ. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en attente parce qu'on est divisé. Mais l'unité, ça passe par cette prise de conscience profonde, encore une fois dans notre chair, que on est frère, on est unis par le Christ, et aussi unis par la Bible, par la parole de Dieu, qui est, je pense, une super ressource dans le dialogue pour l'unité des chrétiens, de se dire, en fait, on a aussi énormément de choses en commun. On a des choses qui nous divisent, mais on a des choses en commun qui sont assez phénoménales, en fait, plus on le découvre. Un autre principe aussi, c'est ce qu'on appelle rechercher l'unité dans la diversité. Au sens où l'unité, c'est pas une uniformité, et qu'il y a une diversité qui est belle et qui est voulue par Dieu. Alors là, l'enjeu, je m'en suis aperçu aussi en côtoyant beaucoup de milieux œcuméniques, c'est de faire la distinction qui n'est pas évidente entre la diversité et la division. C'est pas évident du tout, en fait, mais je pense que la clé, elle est là. La diversité, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. C'est de se dire, dans notre vie chrétienne, dans notre manière de rendre gloire à Dieu, en fait, il y a quelque chose dans lequel on peut rendre gloire à Dieu de tas de manières, par différentes langues, différentes cultures, différentes sensibilités, différentes orientations, différentes manières de faire. Et c'est quelque chose qui est voulu par Dieu, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la diversité de l'Église. Et plus profondément même, c'est de la diversité presque qui est en Dieu même. Dieu qui est à la fois profondément un, mais qui est aussi Trinité. Donc il y a aussi une abondance de vie, une diversité en Dieu même, d'une certaine manière. Et donc il y a aussi une diversité dans l'Église qui est bonne. Et en même temps, cette diversité, elle ne doit pas être un prétexte pour la division. Donc là aussi, voilà, j'espère que je vais choquer personne, mais parfois j'ai trouvé que dans certains milieux œcuméniques, il pouvait y avoir un risque de trop facilement mettre la diversité, enfin, trop facilement analyser nos divisions comme étant de la diversité. Et finalement, à renier le fait qu'on est vraiment divisé. Et donc on en vient à se dire, bah, c'est merveilleux, on est tous unis par le Christ, et finalement, on est déjà tous unis, il n'y a plus rien à faire. Et donc je trouve que ça peut être, il y a quelque chose de beau qui est d'une vraie redécouverte et une vraie mise en avant de tout ce qu'on a en commun. Mais le risque, c'est de ne pas voir que si ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise, ben, ce qui nous divise réellement. et qu'il y a réellement des obstacles aujourd'hui. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas faire ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre l'Eucharistie, ou voilà, pour les protestants, la Sainte Cène à la même table. Il y a des choses qui nous divisent et qui sont importantes. Et ça, il ne faut pas le nier. Voilà, la couleur de la peinture dans les murs de l'église, bon, ben ça, on s'en fout, ça, c'est une question de diversité. Est-ce qu'on va louer Dieu en priant en langue, en priant en latin, en arabe ou en français? Bah ça, c'est des choses qui font partie de la diversité de l'Église, selon mon point de vue. En revanche, le fait de ne pas être d'accord sur ce qu'est la nature de l'Église, sur est-ce que Jésus-Christ est présent ou pas dans la Sainte Cène, là, je ne dis pas en ce moment ce qu'il est bon de croire ou pas, mais je dis le fait d'être divisé sur le fait de savoir si Jésus-Christ est présent ou pas dans l'Eucharistie. C'est une question qui est essentielle. Et donc, je pense qu'on ne peut pas botter en touche trop facilement en disant les divisions qu'on a, en fait, elles n'ont aucune importance, elles font juste partie de la diversité harmonieuse de l'Église. Il y a des véritables il y a des véritables éléments de diversité dans l'Église qui, pour moi, doivent être valorisés. Et en parlant en tant que catholique, dans l'Église catholique, on aura toujours une tendance à aller trop vers l'uniformité. Mais de l'autre côté, il y a aussi une prise de conscience que l'unité à laquelle la parole de Dieu nous appelle, c'est une unité qui est profonde, qui est intense, encore une fois, parce que c'est le reflet de la communion trinitaire du Père, du Fils. Et donc on a des passages comme ça. Je me souviens plus du passage dans la Bible, mais je me souviens que j'en parlais dans mon livre. Des passages, en fait, où on a une exhortation à vivre une unité qui est quand même très intense, en fait. Donc par exemple, dans Éphésiens 4, 6, voilà, on a Paul qui nous dit: comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voilà, on a dans 1 Corinthiens 1, 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans une sorte de truc sectaire où tout le monde pense pareil, mais c'est prendre vraiment conscience, encore une fois, dans notre trip, de la profondeur de l'unité, de la communion à laquelle Dieu nous appelle. Bon, avec tout ça, on va pouvoir vraiment rentrer dans le concret maintenant. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre l'unité des chrétiens? Donc moi, je ne suis pas plus équipé qu'un autre pour le dire, donc je partage un peu mon expérience, que j'essaye aussi de relier un petit peu à, voilà, ce que dit la Bible, à la tradition de l'Église, à certains textes de... Voilà, qu'ont expérimenté des acteurs de l'unité des chrétiens. Donc la première étape, c'est assez évident, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment précis, c'est se rencontrer. Alors ça paraît peut-être assez évident, mais se rencontrer, c'est essentiel au sens où l'œcuménisme, ça se vit au coude à coude. C'est pas juste un truc qui se fait à distance. C'est pas juste un truc qui se fait par Zoom interposé ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de charnel et d'incarné qui doit se vivre, on doit se rencontrer. Et je pense que c'est essentiel. Donc le pape François, il parle de la dimension de créer des ponts plutôt que des murs, de cette culture de la rencontre aussi à laquelle on est appelé, qui n'est pas bisounours, parce que la rencontre, c'est aussi voilà, se frotter les uns aux autres avec nos différences, nos difficultés, nos caractères et tout ça. Mais l'unité, elle ne peut pas faire l'économie de ça, d'aller se rencontrer les uns les autres. C'est pas juste on fait des grandes déclarations œcuméniques, chacun dans sa tour, et puis après, on se rencontre pas les uns les autres, mais c'est important de se rencontrer. De se rencontrer et puis d'apprendre à se connaître et à se comprendre concrètement. Et alors ça peut paraître hyper abstrait, mais au fond, là aussi, c'est très concret. On peut avoir parfois une vision de l'unité qui va être très superficielle, où on se dit encore une fois, voilà, on sait globalement ce que pensent les uns ou les autres, on a globalement un vague ami protestant ou orthodoxe, et du coup, c'est bon, on sait à peu près ce que pensent les uns et les autres, et on va s'arrêter à quelque chose de très superficiel. Or, moi, je pense que l'amour, c'est ce à quoi on est appelé à... C'est ça en fait, le nerf de la guerre dans l'unité, c'est avoir une charité les uns pour les autres. Ça passe aussi par apprendre à se connaître. Dans la Bible, on voit que la connaissance, elle est très liée à l'amour. La connaissance, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'expérimentation en fait. Et c'est dans ce sens-là où je pense que vivre une vraie charité, vivre une vraie voilà, unité des chrétiens qui soit profonde, ça passe par se rencontrer, apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre les uns les autres. Pourquoi je dis que c'est un défi? Parce que en fait, ça va pas du tout de soi. Quand on découvre une autre confession chrétienne, je suis bien placé pour le savoir, en fait, potentiellement, il peut y avoir des tas de trucs qui vont nous choquer. Et c'est sain, c'est normal parce qu'on est humain. Et donc quand on découvre quelqu'un qui est différent de nous, que ce soit une autre culture ou parfois une autre confession, ben, on a ce premier mouvement qui va être de se dire, ben, l'autre, il n'est pas comme moi, il a des trucs qui sont différents, et cette différence, elle peut nous choquer. La difficulté supplémentaire dans l'unité des chrétiens, c'est qu'on va avoir ce que j'appelle des faux amis, on va avoir des choses qu'on va repérer, par exemple en allant dans une autre église, qui va nous paraître un peu bizarre. Bon, je vais prendre un exemple concret. Typiquement, un catholique qui d'un coup se dit, tiens, je vais aller dans un culte protestant. Il va assister à un moment donné à la Sainte Cène. Alors lui, typiquement, à quoi ça va lui faire penser? Ça va lui faire penser à l'Eucharistie. Et du coup, il va tout comparer en se disant, ce que je vois, est-ce que ça ressemble ou pas à l'Eucharistie? Et donc forcément, il va y avoir quelque chose qui va le choquer. Il va se dire, mais c'est bizarre la manière dont ils font les choses. Ils n'ont pas de respect pour Jésus dans l'Eucharistie. C'est très bizarre. Et donc c'est là où l'épreuve de la rencontre, en fait, bizarrement, parfois, paradoxalement, si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, elle peut parfois conforter nos préjugés. Un protestant qui va dans une église catholique, qui parfois, ben voilà, a sa conviction profonde, c'est que le fait de demander l'intercession des saints, pour lui, c'est de l'idolâtrie. Pour lui, avoir des statues dans une église, c'est de l'idolâtrie. Peut-être qu'un jour, plein de bonne volonté, il va vouloir mettre sa conviction à l'épreuve, il va se rendre dans une église catholique. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des statues, des icônes partout. Il va repartir en disant, ben, tout ce qu'on m'a enseigné, on avait raison, les catholiques, ils sont bien idolâtres. Donc c'est là où, en fait, si on s'arrête dans un truc en surface, on peut avoir une connaissance très superficielle les uns des autres. Et donc je pense qu'aller jusqu'au bout de la démarche, il y a une clé que nous propose notamment Jean-Paul II, je pense que ça vient pas de lui, mais c'est apprendre à comprendre l'autre tel qu'il se comprend. Donc là, c'est très compliqué parce que ça exige un déplacement, c'est de se dire, je vais m'impliquer dans la rencontre avec l'autre en essayant de comprendre sa pratique, sa conviction théologique, ce qu'il vit, en essayant de se dire, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça? Ce geste qu'il pose, cette conviction qu'il a, quel sens ça a dans sa propre logique? Parce que sinon, encore une fois, on va raisonner de l'extérieur en disant, ben moi, en tant que catholique, je vois des trucs protestants, ils font ci, ils font ça. On va avoir simplement, on va faire un exposé journalistique sur ceux qui sont en train de vivre. Et en fait, finalement, ça ne va pas nous marquer, on va pas comprendre, on va passer à côté. Donc l'essentiel, c'est de se dire, quelle est la cohérence interne de ce que pense l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire pour un protestant la Sainte Cène? Qu'est-ce que ça veut dire pour un protestant la Bible seule? Qu'est-ce que ça veut dire pour un orthodoxe, la synodalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est valable, quelle que soit notre confession, pour essayer de comprendre ce que vivent les uns et les autres, en fait. Et l'enjeu, c'est de se dire, bah, on se mouille, en fait, dans la rencontre. Voilà, on y laisse des plumes. Encore une fois, c'est pas juste un truc superficiel, c'est on accepte de rencontrer l'autre en tant qu'il est autre. Sinon, encore une fois, on fait de l'œcuménisme superficiel. On fait des comités, on fait des rencontres, tout va bien, on est tous d'accord, et finalement, on aime l'autre en ce qu'il est le reflet de nous-mêmes. On aime l'autre parce qu'il aime le Christ comme moi. Mais est-ce que j'aime l'autre alors que sa conviction théologique, elle me hérisse les poils? Est-ce que j'arrive à quand même l'aimer alors que voilà, sa manière de rendre gloire à Dieu va être différente de la mienne? C'est ça aussi l'enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout de nos différences, ce qui peut être très crucifiant et difficile, hein, mais de se dire, je vais aller jusqu'au bout de la logique de l'autre pour essayer de la comprendre comme de l'intérieur, en fait. Je pense que c'est très important, parce que sinon, encore une fois, c'est notre unité, elle va être superficielle. Et en fait, c'est seulement là, quand on a fait cette démarche-là de comprendre l'autre comme il se comprend, qu'en fait, on va pouvoir remédier, on pourrait dire paisiblement, à nos désaccords, en fait. Parce que le risque, c'est que aujourd'hui, dans les liens entre les confessions chrétiennes, il y a plein de préjugés, il y a plein de mépris, il y a plein de jugements, il y a plein de trucs qu'on balance les uns sur les autres sans trop savoir si c'est vrai. Et la rencontre, rencontrer des gens qui ont un visage avec qui on discute, ça met à l'épreuve nos préjugés, bien sûr. Et puis, c'est aussi comprendre, voilà, quelle est la conviction profonde de l'autre, et puis se dire, au fond, l'enjeu, c'est de se dire, le chrétien d'une confession différente que la mienne, il essaye d'être fidèle à Dieu dans sa propre logique. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pas d'être d'accord sur tout, c'est pas d'être dans un truc bisounours, mais c'est de se dire, je ne suis pas d'accord avec l'autre. Le protestant, il a le droit, dans sa logique propre, de se dire, moi, ça me choque que les catholiques, ils s'adressent à la Vierge Marie. Je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, je vais quand même faire la démarche d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour un catholique de faire ça. Parce que sinon, encore une fois, on reste sur un truc superficiel et du coup, on est dans le mépris. On est dans je sais pas trop quoi, mais on est dans des jugements qui sont superficiels. Et donc, si je veux un petit peu pousser la provocation, je dirais, bah, quand on regarde Jésus dans l'Évangile, c'est intéressant parce que lui-même, il va rencontrer des gens qui sont hérétiques Au vu des critères de l'époque, Jésus, c'est le mec qui va rencontrer des Samaritains. Donc ce sont des Juifs hérétiques qui n'ont pas les convictions exactement cachères au regard du judaïsme de l'époque. Et Jésus, précisément, c'est celui qui va rencontrer des gens qui n'ont pas les convictions théologiques les plus idéales. Donc ça doit nous encourager à nous dire, bah, on peut avoir nos propres convictions, mais ne pas hésiter à aller rencontrer les autres, pas hésiter à se mouiller, pas hésiter à dialoguer, pas hésiter à y aller, à essayer de comprendre l'autre, vraiment encore une fois, dans sa propre logique. Alors évidemment, ça demande un peu de temps. Et alors très concrètement, bah, moi je nous encourage et j'essaye de le vivre moi tout en étant catholique. Donc moi je suis très engagé au sein de l'Église catholique. Je suis dans un mouvement missionnaire qui s'appelle Annuntio. Je vis beaucoup de choses qui sont très avec on pourrait dire le tampon catholique. Mais du coup j'essaye de toujours me dire, bah, voilà qu'est-ce que je peux vivre dans mon quartier très concrètement là où je suis. D'essayer aussi de rencontrer des chrétiens d'autres confessions. Donc moi j'habite à côté de la basilique de Montmartre. Mais voilà, en début d'année, je me suis dit, bah, ça peut être sympa d'aller voir l'église évangélique en bas de chez moi, d'aller passer un temps avec eux. Et puis, quelque chose que j'ai pu faire il y a quelques semaines, et j'étais hyper content de le vivre, c'est que j'ai pu y amener ma compagne aussi, du coup, qui, elle, n'avait jamais mis les pieds dans un culte évangélique. Et du coup, j'ai pu faire un peu, en quelque sorte, le guide touristique. Donc, pour moi, c'est ça aussi un petit peu l'enjeu. Pour des personnes qui, peut-être, comme certains d'entre vous, considère que l'unité c'est une question importante, encore une fois c'est d'être des missionnaires de l'unité des chrétiens dans notre propre confession et d'aider à changer le regard que certains posent dans notre propre confession sur les autres confessions. Pourquoi pas en leur proposant des choses, en leur proposant des événements, en leur proposant de venir avec nous voir un culte d'une autre confession. Donc ça c'est des trucs qu'on peut faire très très concrètement, que moi j'essaie de vivre et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau en fait. Alors après l'enjeu aussi c'est de... Je dirais, c'est le dialogue, c'est la discussion. Et là aussi, en fait, on est un peu sur une ligne de crête entre, je dirais, l'amour et la vérité. Je pense qu'il faut pouvoir articuler, je pense que c'est hyper important, enfin, ce que j'appellerais un peu l'œcuménisme relationnel, de vivre des choses ensemble, de faire des choses ensemble, de se rencontrer, d'agir ensemble. Et puis en même temps, le dialogue théologique qui reste très important. Et donc, moi, en fait, en ayant beaucoup côtoyé différents milieux œcuméniques, j'ai pu me rendre compte que souvent, il y avait un petit peu deux tendances qui se croisent très peu. Il y a d'un côté des personnes qui sont beaucoup dans le dialogue intellectuel, théologique. Voilà, j'espère que je vais blesser personne, mais souvent c'est des personnes qui sont d'un certain âge. Souvent c'est des personnes qui sont prêtres, pasteurs et tout ça, qui discutent dans des universités. Et je pense qu'ils font un travail qui est assez précieux. Et de l'autre côté, parfois moi je vois un œcuménisme, parfois de terrain qui est plus jeune, dans des milieux parfois charismatiques, du coup que moi je côtoie beaucoup, mais qui parfois va avoir une grande méfiance envers tout ce qui est de l'ordre de la discussion en fait, et de la discussion du dialogue en fait en vérité. Et encore une fois, moi je pense que les deux sont importants. Je pense que dans l'unité des chrétiens, en fait, on voit qu'il y a des divisions de nos églises qui sont dues. Il y a des questions, il y a des problèmes relationnels qui auront besoin de solutions relationnelles, il y a des problèmes théologiques qui auront besoin de solutions théologiques. Donc je pense que les deux vont ensemble. Et finalement, l'enjeu du dialogue, c'est aussi d'identifier les vrais et les faux problèmes. Encore une fois, c'est toujours la même différence entre la diversité et la division. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que dans les dialogues théologiques, il y a des choses qui relèvent plus dans nos différences de conception, qui sont plus des différences de sensibilité, des différences de manière d'exprimer les choses, des différences presque de culture. Ça s'est beaucoup vu dans le dialogue, par exemple, entre les églises catholiques et les églises orientales. Il y a quelques différences théologiques, mais souvent, en fait, on s'est aperçu qu'il y a aussi beaucoup de divisions qui sont culturelles, qui sont d'une manière d'exprimer les choses, de sensibilité, d'une pensée qui s'est construite un peu différemment. Et ça, encore une fois, ça fait partie de la diversité de l'Église. Donc, le dialogue aussi, c'est essayer de déterminer, au fond, quels sont les vrais problèmes et quelles sont les choses qui font partie de la diversité de l'Église. Et ensuite, la difficulté, ben voilà, c'est quand on a des vrais problèmes, ben c'est là que le dialogue finalement est important, même si c'est un peu rude, c'est de se dire, ben, si on veut pouvoir avancer dans l'unité, il faut aussi dialoguer en vérité, y compris sur les questions qui fâchent. Encore une fois, en gardant toujours en tête que tout ce qu'on a en commun, il faut pouvoir le mettre en commun. Ce qu'on a en premier, c'est le Christ. Donc le dialogue n'est possible que si on vit d'abord au préalable une vraie fraternité et qu'on est conscient que le Christ nous unit. Mais ensuite, il faut pouvoir se dire, bah, si véritablement on est divisé, bah, ça veut dire qu'il faut remédier aux divisions. Et concrètement, il va bien falloir qu'on s'attaque aussi aux problèmes qui sont nos questions qui nous divisent, parce que c'est elles qui font obstacle à notre pleine communion. Et donc c'est là où c'est bien que les commissions théologiques et tout ça, mais je dirais même au fond, dans nos propres vies, en fait, quand on va rencontrer des gens, des personnes d'autres confessions, en fait, parfois, on va être amené à notre échelle, en discutant de ce en quoi croient les uns ou les autres, ben, on va être amené à avoir peut-être des petits désaccords, des petites choses sur des points qui nous divisent. Et je pense que, y a une manière dans laquelle on peut aborder ces choses. C'est-à-dire pas forcément faire un sujet tabou, mais c'est de se dire, bah, oui, en fait, la Vierge Marie, le pape, ce que vous voulez, c'est des questions qui se posent et il faut pouvoir les aborder. Et parce que l'exigence, enfin encore une fois, je pense que l'enjeu derrière, c'est aussi d'être fidèle à ce que Dieu veut pour nous, finalement. C'est de garder le dépôt de la foi, c'est de garder la fidélité à ce que Dieu veut pour l'Église, et c'est aussi de ne pas brader ce qu'on considère être la vérité ou ce qui se rapproche le plus de la vérité. Donc l'unité, c'est une démarche de communion, c'est une démarche dans laquelle on recherche la paix les uns avec les autres, mais c'est de se dire aussi, ben, c'est un dialogue en vérité. C'est d'avoir un certain zèle pour la vérité, un peu comme l'avaient les premiers chrétiens, les pères de l'Église, de se dire aussi, ben, encore une fois, on n'a pas peur de se frotter les uns aux autres d'une certaine manière, en disant, ben voilà, ces désaccords, il faut aussi qu'on puisse en parler, parce que l'enjeu derrière, ben, c'est la fidélité à ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour son Église, ce que Dieu attend de nous. Et donc, c'est de prendre au sérieux aussi voilà, c'est cet enseignement que le Christ nous a transmis, et la manière dont il veut qu'on le transmette à notre tour. Et donc c'est dans ce sens-là où je pense que l'œcuménisme, il faut qu'il passe par une recherche exigeante de la vérité, ne pas avoir peur de parler des sujets qui fâchent et ne pas avoir peur d'être pleinement nous-mêmes. Là aussi, parfois, ça peut être quelque chose de blessant. Moi, je vous parle avec mon expérience, donc j'ai vécu des tas d'expériences très compliquées aussi dans l'unité des chrétiens. Parce que ben, l'unité, c'est accepter que l'autre soit pleinement lui-même, en allant jusqu'au bout de sa propre logique, encore une fois. Donc c'est de se dire, ben, le protestant avec qui je vais discuter, ben, c'est accepter qu'il ne soit pas d'accord avec moi sur des choses qui sont importantes pour moi. Peut-être que je suis un catholique qui suis très attaché à la figure de la Vierge Marie, ben, je sais que le protestant, lui, c'est pas du tout son truc. Mais ça ne va pas m'empêcher de le considérer comme un frère chrétien. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de se dire, ben, ne pas avoir peur de nos désaccords, parce que, et on va essayer de les surmonter, mais les désaccords ne nous empêchent pas d'être frères et sœurs, de prier ensemble, de vivre des choses ensemble, de dialoguer ensemble et de reconnaître tout ce qu'on a en commun. Et donc, du coup, je pense que il y a une attitude qui est essentielle aussi dans le dialogue. Pour le coup, une sorte d'attitude de bienveillance. En fait, c'est l'attitude de se dire, l'autre, y compris parfois, il me dira des choses sur lesquelles je ne serai pas d'accord. Mais avec quelle attitude, finalement, est-ce que j'aborde la discussion en disant j'ai juste essayé de le convaincre? C'est juste un hérétique qui est dans l'erreur et j'ai essayé de le convaincre qu'il a tort. Donc, ça, c'est peut-être une attitude qu'on avait pas mal dans l'Église catholique avant le Concile Vatican II. Aujourd'hui, la démarche, c'est de se dire bah, l'Église catholique, elle croit toujours à ce en quoi elle croit. En soi, elle n'a pas beaucoup changé là-dessus, mais là où elle a changé, c'est dans l'attitude du dialogue, de se dire en quoi est-ce que l'autre, en tant que frère chrétien, en tant qu'il est animé par l'Esprit Saint, il peut me dire quelque chose qui va être aussi une parole de Dieu pour moi. En quoi est-ce que quand je discute avec un frère protestant, je peux me laisser aussi bousculer par ce qu'il va me dire, et il y a des choses qui vont être des véritables paroles, des véritables. Et ça, c'est valable pour la discussion, mais ça va être valable dans des choses que je vais expérimenter dans une autre église, dans des autres contacts avec des chrétiens d'autres confessions. Je vais vivre des choses, je vais voir des choses qui vont me bousculer positivement dans ma propre foi, en fait. Et ça exige une sorte d'ouverture de cœur qui est essentielle, de bienveillance. Encore une fois, ça paraît peut-être un peu nunuche de le dire, mais je pense qu'il est essentiel. Si on aborde uniquement dans l'unité des chrétiens en disant ben, on va en découdre, je vais rencontrer des hérétiques et je vais les ramener à la maison, en fait, je pense qu'on passe à côté d'une conversion à laquelle on est appelé aussi personnellement. C'est de se dire l'unité des chrétiens, ben, très clairement, il y a peut-être des erreurs de part et d'autre, mais y compris chez moi, en fait. C'est de se dire, est-ce que j'arrive à vivre l'unité des chrétiens dans une démarche, en me remettant en cause, en étant dans une démarche d'humilité, en me disant, en fait, j'ai peut-être pas toutes les cartes en main non plus. Il y a peut-être des éléments que l'autre peut m'apporter dans sa manière dont il va scruter aussi le mystère de Dieu. Voilà, je prends un peu l'exemple dans mon bouquin, mais je sais pas si vous connaissez c'est pas une parabole, mais c'est une histoire qu'on raconte de, je crois que c'est six aveugles qui essayent de toucher un éléphant, et chacun, en fait, comme ils sont aveugles, ils savent pas que c'est un éléphant, et donc chacun va toucher, il y en a qui touche la queue, il y en a qui touche les défenses, il y en a qui touche à chaque fois une partie du corps différente, et donc ils ont l'impression que c'est à chaque fois quelque chose de différent qu'ils touchent. Celui qui touche les défenses de l'éléphant, il a l'impression qu'il touche une lance, celui qui va toucher les oreilles, il a l'impression qu'il touche je sais pas quoi. Et en fait, il y a un sage qui va arriver et qui va dire aux six aveugles, mais en fait, vous avez tous dit quelque chose de vrai, mais vous avez juste aperçu cette réalité depuis un point de vue différent. Donc, vous avez tous expérimenté quelque chose de l'éléphant, mais d'un point de vue différent. Et donc, encore une fois, sans être dans un relativisme théologique ou je ne sais pas quoi, mais c'est de se dire, dans l'unité des chrétiens, il y a aussi quelque chose comme ça, de se dire, ben, y a quelque chose que l'Esprit Saint a répandu abondamment sur les différentes confessions chrétiennes, il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui est vécu dans chaque confession chrétienne, et en quoi est-ce que dans mon dialogue, dans mes discussions, dans la manière dont je vais vivre mes relations avec les autres chrétiens, en fait, je vais accepter de me laisser bousculer, de me laisser déranger, en voyant en fait ce que ça peut aussi, ce que ça peut m'apporter. Donc il y a une phrase jésuite dans la manière d'aborder la discussion, le dialogue, qui est de dire on va essayer de sauver la proposition de l'autre. En gros, ça veut dire, dans ce que l'autre va me dire, il y a des choses qui vont peut-être me choquer, mais malgré tout, en quoi est-ce que je peux essayer d'y trouver quelque chose d'intéressant? Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi comme piste dans l'unité des chrétiens, c'est ben, peut-être, voilà, si on dialogue sur un sujet qui fâche, par exemple sur l'intercession des saints, par exemple, ben, le protestant, par exemple, enfin, encore une fois, je classe les choses de manière un peu caricaturale, mais voilà, le protestant, il va pas être d'accord avec la manière dont les catholiques vont s'adresser aux saints pour demander l'intercession et tout, mais le protestant, peut-être, il peut se dire, dans la position catholique, avec laquelle je ne suis pas d'accord, est-ce que je peux pas y voir aussi quelque chose d'intéressant sur la manière dont Dieu y délègue, d'une certaine manière, il aime à faire participer les hommes à sa propre mission. De la même manière qu'il le fait pour l'évangélisation, Dieu finalement donne une place aux hommes, donne des responsabilités, et Dieu aime déléguer d'une certaine manière. Donc le protestant, sans être d'accord avec le catholique, il peut se dire, bah, c'est intéressant, n'empêche, dans la position catholique, cette dimension-là, sans forcément être d'accord avec le reste. De même, en fait, un catholique qui sera peut-être pas d'accord surtout sur certaines convictions théologiques protestantes, en fait, il peut se dire, en quoi est-ce que c'est intéressant pour moi, catholique, que le protestant, en fait, y mette en valeur l'idée que le Christ est l'unique médiateur, que toute grâce vient de Dieu. Peut-être qu'en tant que catholique, ben, je vais rester, malgré tout, convaincu par la place de l'intercession des saints et tout ça, mais en quoi est-ce que le protestant, il va quand même me challenger sur cette idée de dire, ben, en fait, toute grâce vient de Dieu, malgré tout. Et c'est dans ce sens-là où le dialogue, c'est pas forcément tout ou rien, c'est pas forcément j'ai totalement raison ou l'autre a totalement tort. C'est de se dire, ben, peut-être qu'on va, à certains moments, être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais malgré tout, le dialogue, il peut être productif et on peut quand même en retirer quelque chose. À partir du moment où on a cette attitude d'ouverture de cœur qui, je pense, est essentielle. Et encore une fois, comme je disais, l'enjeu, c'est de se dire, l'autre, je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais il essaye d'être fidèle à Dieu dans sa propre logique. Et ça, encore une fois, je pense que c'est très beau d'en arriver à cette démarche-là. De se dire, ça désamorce au fond, bah, toutes les encore une fois, je disais, bah, le mépris, toutes les jugements qu'on peut avoir sur notre confession chrétienne, de se dire, bah, je peux tenir mes propres convictions profondes, en fait, en se disant, au moins en faisant droit à l'autre, de se dire, bah, c'est aussi un chrétien qui essaye d'être fidèle à Dieu, il a une logique qui est cohérente, il a une théologie, il a des convictions, il a des rites, il a une manière de réfléchir qui est cohérente, qui n'est pas la même que la mienne, mais qui a son sens. Après, l'enjeu, c'est de passer aussi du temps ensemble. Donc, l'unité des chrétiens, comme je disais, bah, la communion, je pense que ça se bâtit en passant du temps ensemble. Et je pense que la prière, elle est essentielle. Moi, de plus en plus, j'en suis convaincu. Je vis beaucoup d'événements de prière dans l'unité des chrétiens. Et je pense que c'est peut-être la chose qui construit le plus l'unité. Enfin, de plus en plus, j'en suis frappé. Il y a quelque chose d'incroyable dans les temps de prière vécus avec des chrétiens d'autres confessions. Il y a quelque chose dans lequel on se remet tous vraiment sous le regard de Dieu. D'un coup, en fait, c'est comme si le ciel il descend sur terre. C'est comme si d'un coup l'unité elle était déjà présente en fait. Quand on prie ensemble entre chrétiens d'autres confessions, moi j'ai vécu souvent des trucs comme ça, mais il peut y avoir quelque chose de presque surnaturel en fait. Il y a vraiment quelque chose de prophétique dans lequel on annonce l'unité qu'on ne vit pas déjà complètement ici aujourd'hui en fait, dans la prière en commun. Donc je pense encore une fois, la prière, c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense, de toute démarche d'unité. Et avant-hier, donc c'était lundi, j'étais à un grand rassemblement dans l'unité des chrétiens, une sorte de grand mouvement charismatique qui s'appelle Paris, tout est possible, qui est lancé par un pasteur protestant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Carlos Payan. Et donc là, c'était les 20 ans de cette association-là, qui était dans une des plus grandes églises évangéliques de France, qui s'appelle l'église MLK, Martin Luther King, à Créteil. Et en fait, c'était incroyable. Moi, j'en ressors de là, mais gonflé à bloc de ces temps de prière en commun, d'exercice de certains ministères, de prédicateurs, de temps qu'on a vécu ensemble, de discussions, de juste vivre, partager du temps ensemble. Il y a quelque chose de vraiment hyper beau là-dedans, quoi. Et donc, je pense aussi que. Donc, il y a la prière ensemble, il y a la Bible aussi. Partager des temps d'études bibliques. Moi, c'est des choses que j'ai pas mal vues aussi dans dans des milieux œcuméniques, mais même pas forcément. En fait, la Bible, c'est encore ce qui nous lie aujourd'hui. Et c'est encore quelque chose qui peut nous aider à construire l'unité des chrétiens. Et donc, les temps dans lesquels on peut étudier, méditer, prier la Bible ensemble, je pense que c'est aussi des choses qui sont très précieuses. Alors, je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, la Bible, c'est vraiment quelque chose qui nous lie. Et puis, il y a aussi une certaine manière, je pense, parfois, de pouvoir relire l'histoire de l'Église, y compris l'histoire de nos divisions en France, ensemble. Et donc, au fond, on a une histoire chrétienne qu'on partage, même si elle a été chahutée, même si on ne l'interprète pas de la même manière. Mais parfois, il y a certaines structures dans l'unité des chrétiens qui proposent d'étudier des textes de l'histoire de l'Église, des textes de pères de l'Église, des textes de théologiens, sur lesquels on ne va pas avoir tous la même approche, mais qui peuvent être très, très riches. Par exemple, un auteur qui s'appelle Rod Dreher qui a écrit un livre qui s'appelle Le Paris bénédictin, et dans lequel il parle d'un mouvement en fait dans l'unité des chrétiens, dans lequel en fait c'est des gars, des hommes qui se retrouvent, je sais pas si c'est une fois par mois ou quelque chose comme ça, mais en fait justement pour étudier des textes de pères de l'Église entre chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques, et où chacun va discuter en vérité en étant pleinement lui-même, mais en étant enrichi par le point de vue de l'autre. Et puis en même temps, il y a aussi un temps fraternel où les gens boivent une bière et tout ça, quoi. Et ça, je trouve ça chouette aussi de. Je pense que la bière est aussi importante que de relire notre histoire en commun. Au sens où c'est important, on va dire, de vivre des choses en commun en tant que chrétien de confession différente, mais c'est important de vivre des choses sans se limiter à notre différence confessionnelle. Alors, c'est peut-être abstrait ce que je dis, mais c'est de se dire, en fait, on se rencontre les uns les autres, mais pas uniquement en tant que je suis catholique et tu es protestant. On se rencontre aussi en tant que je suis Thomas et tu es Jean-Jacques et je sais pas quoi. C'est-à-dire, on se rencontre aussi en tant que personne. Et donc, on ne se limite pas quand on a une relation les uns avec les autres à notre différence confessionnelle. Et donc, je pense que c'est important, dans ce qu'on vit dans l'unité des chrétiens, d'avoir des temps spirituels, des temps de formation, des temps de dialogue, des temps d'organisation d'événements en commun et tout, mais aussi des temps juste gratuits. Des temps juste gratuits où juste on fait des barbecues ensemble, on prend des moments chouettes ensemble. Ça, je pense que c'est aussi ça qui bâtit vraiment la communion, l'unité, la fraternité, quoi. On n'est pas juste là pour remédier à des difficultés, à des blessures, on est là pour ça aussi, mais juste en fait. On est là parce qu'on est des chrétiens et qu'on a envie de vivre des choses ensemble et de construire la communion et la fraternité de cette manière-là. Et je pense que c'est en vivant des choses ensemble que, on peut expérimenter ce qu'on appelle l'échange de dons, qui est pour moi un truc que j'expérimente tous les jours. Donc dans le jargon de l'œcuménisme, l'échange de dons, encore une fois, c'est de se dire, dans l'unité des chrétiens, il y a encore une fois ces divisions qui existent entre les confessions chrétiennes, mais dont Dieu s'est servi pour répandre, on pourrait dire, des grâces dans chaque confession chrétienne, au fond. Et chaque confession chrétienne, chaque mouvement, chaque sous-courant, chaque groupe chrétien va avoir comme une manière particulière, comme des dons particuliers qui sont distribués par l'Esprit Saint, une manière particulière de vivre la foi chrétienne qui peut nous enrichir. Et donc l'échange de dons, c'est de se dire, même si moi je suis catholique, en fait, dans le patrimoine commun de l'Église universelle, sans être dans ce que j'appelais l'espionnage industriel, mais n'empêche, je peux quand même me nourrir, je peux quand même vivre des choses qui vont booster ma foi catholique en vivant des choses dans des églises protestantes, dans des églises orthodoxes et tout ça. Et donc je pense que ça, c'est une immense richesse pour moi de l'unité des chrétiens, que je partage beaucoup autour de moi et que je fais vivre. Et du coup, de plus en plus, je vois autour de moi aussi des gens qui changent leur regard justement sur les confessions chrétiennes en découvrant des trésors, des dons qui ont différentes confessions chrétiennes, qui les enrichissent aussi dans leur propre vie chrétienne. Donc en fait, moi aujourd'hui, comme je disais, bah, je suis super catho, mais en même temps, en fait, je vis mais constamment, tous les jours, de l'échange de dons. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, je travaille dans une boutique d'artisanat monastique, dans une boutique qui est reliée à une communauté qui s'appelle les Fraternités monastiques de Jérusalem, qui est une communauté catholique, mais qui est profondément imprégnée de spiritualité orientale et orthodoxe. Et donc en fait, dans ma journée de boulot, j'écoute en permanence des CD de musique orthodoxe en fait, de liturgie orthodoxe. Donc je suis imprégné par ça. Là au poignet, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle un tchotki. C'est un chapelet orthodoxe qui sert à une prière qu'on appelle la prière du cœur, la prière du nom de Jésus. Et donc je suis imprégné par ça aussi, tout en étant catholique. Donc je suis imprégné de spiritualité orthodoxe dans mes lectures. Au niveau évangélique, je suis imprégné de prédications, de musique, de livres, de témoignages, de podcasts. Tout en vivant ma foi catholique, en fait, je me nourris sans être, encore une fois, dans une, en essayant d'être pas dans une espèce de consommation, mais en disant, en fait, bah, voilà, en tant que catho, je peux. Il y a des trésors que le Saint-Esprit a répandus dans les autres confessions chrétiennes et qui, moi, en fait, juste m'enrichissent en tant que chrétien, en fait. Et donc moi, c'est quelque chose que je vous encourage beaucoup à expérimenter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, c'est aussi beau, aussi pour nous, de pouvoir voir ce qui se vit dans notre confession chrétienne. Il y a une manière de remédier aux difficultés, il y a une manière de construire la communion, la fraternité, mais aussi de se dire, bah, nous, en tant que chrétiens, chacun, en fait, on peut y... Ça peut nous booster, ça peut nous rapprocher de Dieu, en fait. Moi, tout le témoignage que je donne sur ce que j'ai vécu dans cette église évangélique, c'est que j'y ai rencontré le Christ, c'est que j'ai découvert des choses qui m'ont marqué dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle, dans ma vie morale, dans ma vie missionnaire, en fait, qui laissent des traces indélébiles. Donc, en fait, moi, ce que je dois aux autres confessions chrétiennes, c'est éternel, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là où l'échange de dons, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et donc, se rencontrer, apprendre à se connaître, apprendre à discuter, à vivre des choses ensemble, c'est important. Et le but, c'est aussi d'agir ensemble. Là, donc, on rejoint un peu la parole du Christ, qui est que tout soit un pour que le monde croit. L'idée, c'est aussi pas juste de faire des trucs ensemble dans notre coin, mais c'est de se dire aussi, bah, le but, c'est de pouvoir aussi donner un témoignage commun dans le monde, concret. Donc, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être à un niveau ultra local. Ça peut être se dire, bah, moi, dans mon engagement social dans ma paroisse, dans je sais pas quoi, je fais des maraudes. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller inviter des protestants? Qu'est-ce qui m'empêche même de faire un truc commun entre une église protestante et une église catholique pour faire des maraudes dans la rue, en fait? Donc il y a aussi un peu un principe de l'unité des chrétiens qu'on cite souvent, mais dans notre action commune, tout ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire ensemble aujourd'hui parce que ce serait hyper compliqué. Voilà, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais moi je m'en suis rendu compte de l'intérieur par rapport à la question de l'évangélisation de rue, par exemple. Il y a des vrais enjeux qui se posent, qui font que c'est compliqué de donner un témoignage en commun. Mais de l'autre côté, il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble, en fait. Et donc moi, de plus en plus, je suis surpris et touché par le nombre d'événements, d'associations, de structures, de choses en rapport avec l'unité des chrétiens qui agissent très concrètement. Donc j'ai des tas d'exemples, encore une fois, j'en donne des dizaines dans le bouquin. Voilà, pour les personnes qui auraient l'impression que l'unité des chrétiens, ça se casse la figure et qu'on est une phase voilà, dans laquelle la chose est en train de mourir. En fait, moi, je vois énormément aussi de belles choses germer et se déployer. Et du coup, par exemple, un événement que j'avais en tête, auquel je n'ai pas assisté, mais j'ai eu tellement de témoignages que je trouve ça hyper beau, le Jesus Festival. Par exemple, Jesus Festival, c'est marrant, en fait, c'est un événement qui a lieu à Paray-le-Monial. Qui est co-organisé par la communauté de l'Emmanuel et des tas d'églises évangéliques. Et c'est un immense événement qui a lieu début juillet, je pense, qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière et qui réunit des chrétiens de toutes confessions pour louer Dieu ensemble. Et des événements comme ça, il y en a énormément. Je pense aussi à un truc que j'ai vu assez récemment, c'est une série qui s'appelle The Chosen, une série sur la vie de Jésus. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais très très bien. Donc, une série que moi je trouve super, et c'est assez marrant parce que c'est une série qui à la base est protestante, mais en fait il y a eu énormément de catholiques et de personnes d'autres confessions, de juifs messianiques qui ont été associés au tournage, associés au scénario, associés aux acteurs et tout ça. Et en fait, ça donne des partenariats, même aujourd'hui en France, dans la promotion de cette série qui est assez incroyable. Donc, en fait, je crois qu'on est dans un temps aussi en France où. Ben, d'un côté, il y a peut-être des choses de l'unité des chrétiens où on a l'impression que des choses qui peut-être sont un peu vieillissantes, des choses où il y a peut-être certains éléments de notre manière de vivre l'unité des chrétiens qui sont à réinventer. Mais il y a aussi des choses qui germent, des choses qui se développent, des choses. Enfin, encore une fois, je pourrais en parler des heures, mais il y a un festival qui s'appelle le festival Amène-toi, qui est un festival intergénérationnel dans l'unité des chrétiens en zone rurale, qui, pareil, s'est né très, très, très récemment et en fait qui draine un monde assez incroyable en fait. Donc moi, ce que je trouve beau aussi dans l'unité des chrétiens, c'est qu'en fait, on voit que c'est un mouvement aussi qui est accompagné par Dieu et par la providence. Enfin, c'est un peu comme ça que je le relis, c'est que, encore une fois, il y a des tas de divisions, il y a des tas de choses qui restent, il y a des tas de choses qu'on n'a pas du tout surmontées, mais en même temps, on voit qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui guérissent, il y a des... moi, je suis très touché que ce soit dans les relations que j'ai avec d'autres chrétiens, mais même en voyant, en fait, même au sommet de l'Église, en fait. Voilà, on en parlait au repas, mais... au niveau théologique, l'accord qui a été trouvé sur la justification entre la Fédération luthérienne mondiale et puis l'Église catholique, auquel se sont joints ensuite beaucoup d'autres confessions chrétiennes, on peut se dire, ben, est-ce que ça a eu toutes les retombées possibles au niveau local? Peut-être pas encore, mais en tout cas, est-ce que c'est pas un signe juste complètement prophétique? Est-ce qu'il y a 50 ans, on aurait pu imaginer un truc pareil? Alors que c'était la pomme de la discorde au moment de la réforme protestante, la question du salut, en fait. Et là, de se dire qu'il y a eu des avancées, même si tout n'est pas réglé là-dessus, en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui montre en fait que même au niveau théologique, on peut se dire bah, peut-être que tout est verrouillé. En fait, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles. Et puis, encore une fois, aussi au niveau relationnel, il y a des choses qui se passent, il y a des actes de réconciliation qui sont posés, il y a des initiatives communes, il y a des groupes communs qui se montent. Donc, encore une fois, moi, je pense, voilà, dans l'action commune, dans le témoignage commun, je dirais même aussi parfois, c'est plus peut-être au niveau un peu... presque politique, mais un témoignage commun qui peut être donné, sans forcément encore une fois qu'on soit d'accord sur tout avec nos diverses sensibilités, mais dans une société qui aussi bah, s'écarte du christianisme, des valeurs chrétiennes, bah, il y a aussi parfois sur certaines questions un témoignage chrétien, je pense, qui peut être donné voilà, face à certaines lois, face à certaines choses, dans lesquelles on peut donner un témoignage sur finalement sur ce qu'est l'évangile. Donc en fait, encore une fois, c'est dans ce sens-là où, pour moi, on rejoint l'intuition de Rick Warren, le pasteur évangélique, de dire, bah, dans une société qui se sécularise, les chrétiens de plus en plus prennent conscience que, voilà, ceux qui aiment Jésus, en fait, on est dans la même équipe, quoi. On est vraiment dans la même équipe, on est vraiment dans le même bateau, on a vraiment beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses qu'on peut vivre ensemble. Et donc ça, encore une fois, c'est super beau. Donc, je vous ai partagé des grands événements, des grandes initiatives et tout ça, mais encore une fois, ça peut être des choses hyper simples qu'on peut faire ensemble, de maraude, de n'importe quoi. Alors, je vais vraiment terminer. Après, je pense, ouais, on aura peut-être un temps d'échange et tout, mais je voulais terminer en fait sur la chose peut-être la plus importante de ce que j'avais envie de vous dire, c'est sur la place de la charité, en fait, la place de l'amour dans l'unité des chrétiens. Et c'est peut-être la seule chose, si vous voulez repartir avec une seule chose, c'est peut-être la seule chose à retenir, parce que sans ça, il n'y a rien qui est possible. C'est vraiment l'amour, quoi. C'est vraiment l'amour qui est la colle, c'est le ciment de l'unité des chrétiens, et sans ça, en fait, il n'y a rien qui tient. Sans ça, en fait, il n'y a rien qui est possible. L'amour, c'est, encore une fois, c'est l'état d'esprit, c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Encore une fois, on en revient au fait que l'unité des chrétiens, ce n'est pas juste un machin que nous-mêmes, on construit de notre propre force, pour des raisons pragmatiques, mais c'est le cœur de Dieu qui veut rétablir la communion entre ses enfants et donc qui veut répandre sa charité, son amour entre nous. Et donc il y a du dialogue théologique, il y a des choses sur lesquelles voilà, qu'il faut y remédier concrètement, mais je pense que c'est avant tout l'amour qu'on a les uns pour les autres, qui va nous permettre au fond de pouvoir endurer toutes les difficultés de l'unité des chrétiens. Parce que, bah, on en parlait aussi un petit peu ce soir, mais. Il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des croix. En fait, quand on est avec des chrétiens d'autres confessions, il y a des choses parfois qui sont dues à nos différences confessionnelles. Il y a parfois des choses très humaines qui s'en mêlent, des choses parfois très politiques, des choses parfois voilà, qui touchent à plein de choses qui vont s'en mêler. Et au fond, je pense que c'est vraiment l'amour qui nous rapproche les uns des autres. Et ça, c'est pas juste une espèce de truc un peu gnangnan, mais c'est vraiment se repositionner en disant, ben. Notre démarche d'unité des chrétiens, je pense, elle doit être aussi profondément spirituelle, en se disant, bah, Seigneur, en fait, donne-moi la force, donne-moi la grâce d'aimer le chrétien de notre confession, de le voir comme toi tu le vois. C'est ça l'enjeu, c'est de voir le chrétien d'une autre confession comme Jésus le voit, en fait. Et donc, notre coach pour l'unité des chrétiens, l'acteur principal de l'unité des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est la communion du Père et du Fils. C'est lui qui est l'esprit de vérité et en même temps l'esprit d'amour. Et donc, j'en suis convaincu de plus en plus, c'est notre relation avec l'Esprit Saint, notre docilité à l'Esprit Saint, qui nous permet de construire une communion sans mettre de côté les sujets qui fâchent, mais en vivant une véritable communion, une véritable fraternité. En fait, il n'y a que avec l'Esprit Saint, avec cet esprit d'amour, cet esprit de communion, qu'on peut apprendre à se rencontrer, apprendre à se connaître, apprendre à discuter ensemble, apprendre à vivre des choses ensemble, apprendre à prier ensemble, apprendre à lire la parole de Dieu ensemble. Tout ça, en fait, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de communion qui vient le mettre dans nos tripes parce que c'est juste l'esprit de Dieu. Et c'est dans ce sens-là où, voilà, pour moi, c'est... Il y a quelque chose dans lequel, bah, voilà, peut-être que mon bouquin, bah, la conférence, ça peut donner l'impression de se dire, bah, il y a peut-être des sortes de tips, des sortes de trucs qu'on peut faire pour s'engager dans l'unité des chrétiens. Donc moi, j'essaye d'en donner, là, j'en ai donné quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres dans le livre, des choses qui relèvent d'une expérience de l'unité. Mais c'est toujours se dire, l'unité, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit de Dieu. C'est d'abord le projet de Dieu. C'est d'abord le désir de communion qui vient de Dieu. Et encore une fois, il y a que Dieu qui peut réparer ce que nous, en fait, on a brisé. Il n'y a que Dieu qui peut mettre son flot de charité, son flot d'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse vivre une vraie relation d'amour et de fraternité entre nous. Parce que sinon, en fait, on va en rester à des trucs, des relations superficielles, des relations qui vont être... encore une fois, on va être dans un dialogue qui va être stérile, dans un dialogue qui va être juste un échange d'arguments, qui va être un truc impersonnel. On va être dans des relations qui vont être très dures, qui vont être très, je ne sais pas comment dire, crispées. Et donc, il n'y a que... l'amour qui nous permet de nous demander pardon. Il n'y a que l'amour qui nous permet de vivre l'unité des chrétiens dans une dynamique de conversion, en regardant notre cœur, en disant où est-ce que moi aussi j'ai merdé dans mes relations avec les autres confessions chrétiennes. Où est-ce que mon église a fauté, ou, mais est-ce que moi aussi, est-ce que dans mes propres comportements avec des chrétiens d'autres confessions, et même de ma propre confession, est-ce que moi aussi, en fait, j'ai pas des choses à me reprocher. Donc c'est aussi d'avoir un esprit de se remettre entre les mains de Dieu en disant « Moi-même, je ne suis pas capable, au fond, d'être un vrai artisan, un vrai acteur de l'unité des chrétiens. J'ai besoin que Dieu mette son amour en moi pour que je puisse assumer la mission qu'il me demande d'être un missionnaire de l'unité des chrétiens. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Sans Dieu, l'unité des chrétiens, elle est impossible. Vous regardez les différences entre les catholiques et les protestants aujourd'hui. Vous mettez les choses dans un tableau de manière arithmétique ou mathématique, ça ne colle pas. » C'est-à-dire, si on regarde les choses de manière uniquement rationnelle, l'unité des chrétiens, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des différences qui peuvent nous paraître irréconciliables. Donc si on vit les choses de manière purement humaine, en fait, on peut se dire, ça ne vaut pas le coup, on ne va pas y arriver, c'est insurmontable. On va se replier uniquement sur notre propre église, on va se replier sur notre propre groupe, on va se replier sur les gens qui pensent comme nous. Et il n'y a que ce déploiement de l'Esprit Saint, ce déploiement de la charité et de la communion qui fait qu'on va se dire, en fait, c'est possible. C'est possible là où je suis, dans ma propre ville, dans les chrétiens qui sont autour de moi, on peut construire des cellules de communion, on peut nouer des relations avec les gens autour de nous, on peut commencer à prier ensemble, on peut commencer à avoir une action sociale auprès des pauvres, juste à deux ou trois. On peut bâtir la communion là où on est et être des artisans de la communion. Et c'est comme ça, je pense, que l'unité des chrétiens, il se construit. C'est pas juste quelque chose qui va nous venir d'en haut à travers des grandes conventions œcuméniques, à travers des grands dialogues, des grandes... je sais pas comment dire, mais oui, des grands textes qui vont être publiés en commun. Je pense que tout ça, c'est très précieux, mais il y a aussi un vrai appel qui nous est donné à nous personnellement en tant que chrétiens, que Dieu met dans notre cœur en disant, en fait, là où tu es, je peux faire de toi un artisan, un missionnaire de l'unité des chrétiens. Et j'ai envie de dire, il faut pas se dire aussi que ça va ajouter quelque chose en plus, qui va nous rajouter des devoirs dans notre vie chrétienne. Parce que parfois, on peut se dire ça. L'unité des chrétiens, c'est un truc que je fais en plus, que je fais le week-end, que je fais parce que j'ai mon truc dans ma propre église et ensuite je vais faire de l'unité des chrétiens. Je pense aussi que l'unité des chrétiens, c'est un mode de vie. C'est une manière de rechercher la communion plutôt que la division. C'est une manière de rechercher le dialogue plutôt que le mépris. Et ça, c'est valable auprès des autres confessions chrétiennes, mais c'est valable aussi dans notre propre confession. Je pense que, au fond, tous les conseils... C'est pas que moi uniquement je donne, mais que la Bible nous donne sur la communion, sur l'unité, sur le dialogue. C'est des choses qui sont valables et qui sont bonnes à prendre pour toute notre vie chrétienne, au fond. Donc c'est là où aussi vivre une vie chrétienne, où on recherche la communion, où on recherche l'unité, où on recherche, tout en étant fidèle à ce que l'on est, mais on recherche vraiment de vivre d'une charité réelle avec les uns ou les autres, c'est un appel qu'on a tout simplement en tant que chrétien aussi. À la limite, il n'y aurait pas la même question, la question de l'unité des chrétiens, on serait quand même appelé à le vivre. Et donc, au fond, l'unité des chrétiens, c'est juste appelé à être vraiment chrétien. Si on est vraiment chrétien, Si on vit vraiment de cet amour de Dieu, comment est-ce qu'on peut regarder un autre frère chrétien comme étant juste un mec qui est dans l'erreur, en fait? Donc l'enjeu, je pense que, au fond, tout ce que je vous dis là, c'est pas de rajouter des choses en plus dans votre vie chrétienne, mais moi, c'est un encouragement que je vous donne à vous et que je me donne à moi d'être pleinement chrétien. Un chrétien, c'est pas d'abord quelqu'un qui va être dans la cuisine, qui va faire des trucs, c'est un mec qui prend conscience de l'amour infini de Dieu pour lui, qui prend conscience que Dieu a un projet pour nous de salut, de sainteté et de divinisation, comme disent les pères de l'Église. Il veut répandre sur nous sa charité. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est rempli de cet amour de Dieu, en fait, il déborde et il devient un missionnaire de ça autour de lui. Le chrétien, c'est une fontaine de l'amour de Dieu. Et donc moi, je vous encourage à être une fontaine de l'amour de Dieu autour de vous. Et donc ça, c'est l'unité des chrétiens, mais c'est simplement la vie chrétienne toute simple. Et donc, je pense aussi qu'un petit tips, un petit tuyau tout simplement spirituel, c'est vraiment la relation avec le Saint-Esprit. C'est là-dessus que je voulais terminer, parce que je vois vraiment, et je vais m'arrêter là, mais à travers certains réseaux charismatiques, alors avec tout ce qui peut être contestable, mais à quel point l'Esprit Saint, il fait tomber des murs qu'on ne pouvait pas imaginer. Moi, je vois des actes de réconciliation totalement impossibles à imaginer. Je vois des demandes de pardon. Je vois des chrétiens, des pasteurs qui lavent des pieds à des prêtres. Je vois des choses qui sont d'une beauté qui sont inimaginables. Encore une fois, je ne veux pas mettre, vous l'aurez compris, hein, dans mon livre, je ne mets pas du tout sous le tapis toutes les blessures, toutes les difficultés, toute la souffrance de la marche vers l'unité des chrétiens. Comme toutes les choses belles, les choses exigeantes sont des choses qui nous coûtent. Mais c'est de se dire, c'est quelque chose qui vaut le coup. Et je crois vraiment que l'Esprit Saint, il nous accompagne sur cette route. Et donc l'unité des chrétiens, ça vaut le coup. Et donc, bah, je pense qu'on peut peut-être prendre un temps de discussion rapidement. Et peut-être juste en une minute, bah, j'aimerais juste prier pour nous et prier pour vous, pour que l'Esprit Saint, en fait, il nous remplisse de son désir, en fait, de ce désir de Dieu, de communion, de ce désir d'unité, en fait. Encore une fois, si on est peut-être engagé dans l'unité, ou même si on n'est pas convaincu, quel que soit, bah, vous, voilà, qui êtes dans la salle, mais quel que soit votre rapport à l'unité, et pour que l'Esprit Saint, en fait, il vienne nous renouveler dans ce désir de vivre cette communion, ce désir de Dieu. Voilà, donc je vais prier juste une minute. Seigneur, je voudrais vraiment te remercier pour cette soirée. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir. Et je voudrais vraiment maintenant te demander, Père, que tu nous envoies ton Saint-Esprit. Je voudrais que tu nous envoies ton esprit de Pentecôte, ton esprit de sainteté, ton esprit d'amour, ton esprit de vérité. Vraiment, Seigneur, tu nous regardes et tu vois toutes les difficultés, toutes les blessures qu'on peut avoir dans nos propres vies, toutes les souffrances qui peuvent être dues à des difficultés liées à l'unité des chrétiens. Et je sais, Seigneur, que ton plan, ton projet, tu nous le dis dans ta parole, tu nous le dis dans l'histoire de l'Église, tu nous le dis et tu nous le répètes, tu veux l'unité, tu désires nous réunir, tu désires vraiment qu'on soit unis dans cette communion. Alors je voudrais que tu viennes vraiment, Seigneur, en ce soir, nous renouveler chacun, répandre ton Esprit Saint en nous, réveiller ce désir, cette flamme de l'unité. Je voudrais que tu viennes mettre en nos cœurs, voilà, cette soif que tu as, cette soif que les tribus d'Israël soient réconciliées, que les différentes confessions chrétiennes soient unies, que nous puissions vivre la communion avec nos frères et sœurs, y compris ceux qu'on a du mal à aimer. Viens vraiment, Esprit Saint, accomplir ce que nous, on ne peut pas accomplir. Viens répandre ta charité. Viens répandre ton feu, viens répandre ton amour dans la vérité, ta vérité dans l'amour, que nous puissions avoir une vision juste de l'unité. Que tu puisses mettre vraiment en nos cœurs, en nos âmes, cette souffrance de la séparation, mais ce zèle, ce feu pour qu'on puisse être chacun de nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, quels que soient nos engagements, qu'on puisse être des missionnaires de l'unité des chrétiens autour de nous. Que tu puisses vraiment nous accompagner dans cette démarche parce que l'unité, c'est vraiment ton plan, c'est ton projet, on veut le remettre entre tes mains. Alors remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton désir de l'unité. Viens vraiment nous remplir de cette charité immense, fais qu'on soit des fontaines débordantes de ton amour autour de nous, que nous puissions être des chrétiens remplis du Saint-Esprit et des chrétiens voilà, qui se donnent pour l'unité parce que c'est ton projet et on sait que toi seul peux le mener à bien. Voilà.
Merci pour cet exposé, merci pour cette prière.